Femmes d'ici et d'ailleurs est une symphonie de portraits audio née du cœur battant de la Maison des Femmes de Bordeaux. Des femmes qui dévoilent les douleurs et les colères qui les habitent, mais aussi les rêves et le courage qui les animent. Un projet où la parole est donnée à celles que l'on n'entend pas, une archive vivante de celles qui ont traversé la Maison des Femmes et un hommage au rôle vital du secteur associatif dans leur parcours. Un plongeon dans ces histoires intimes où chaque voix porte l'écho d'une vie riche et complexe, tissée de résilience et d'espoir.
Alors moi, mon nom c'est Guirassy Nabintou. Je viens de la Guinée, Conakry, c'est l'Afrique de l'Ouest, et j'ai 24 ans. Aujourd'hui, oui, je travaille, j'ai suivi une formation, et je suis sur le chemin de m'intégrer parce que je me sens intégrée, mais bon, c'est pas totalement. Mais je suis sur le chemin, j'ai fait une formation il y a pas longtemps et j'ai commencé à travailler. Actuellement, je travaille donc en tant qu'auxiliaire de vie. En tout cas, pour le moment, j'adore. Ça peut changer parce que j'ai envie d'évoluer dans le métier et vers d'autres postes si possible ou d'autres milieux. Mais pour le moment, j'adore ce que je fais. Par exemple, là, j'ai intégré une boîte où, parce que je l'ai bien choisi, une association. J'aimerais être accompagnement éducatif et social. J'aimerais faire cela. Parce que au début, c'est la formation que je voulais suivre, mais bon, je voulais commencer par là quand même pour voir les débuts du métier et tout. Et après, il y a plein d'autres milieux, mais pour le moment, j'aimerais bien évoluer sur ce travail, être accompagnement éducatif et social, travailler avec les handicapés, les autistes et les enfants aussi. Et avec les personnes âgées également. Je veux tout à la fois, on dirait. Déjà, moi, ça me permet de m'intégrer de plus dans la société. Enfin, parce que avec les personnes que je travaille, ils ont des histoires. C'est des personnes âgées et pas tous. Il y a des personnes handicapées, mais qui sont jeunes. Alors, cette différence d'âge, moi, je leur apporte mon aide en tant qu'accompagnant ou dans la vie quotidienne, eux aussi par rapport à leur parcours, les reconnaissances, les petites histoires. J'apprends beaucoup sur la culture française parce qu'il y a beaucoup de Français. Et sur d'autres cultures, par exemple, j'accompagne une dame espagnole et un monsieur qui vient de l'Italie. Et franchement, ça me fait découvrir à travers leurs mots d'autres cultures, leur expérience, j'en profite un peu. Et moi, j'aime bien cela. Ça me rappelle mon enfance avec ma grand-mère. Et même si on m'a dit toutes les personnes âgées ne sont pas tes grands-parents, mais bon, c'est quand même, je me sens bien, je me sens confortable quand je travaille avec les personnes âgées. Alors, quand moi je parle d'intégration, pour moi, vu que déjà je suis venue en France, j'ai demandé de l'aide à l'État français et heureusement, ils me l'ont accordé. Pour moi, c'est essentiel parce que je suis maman de m'intégrer dans la, enfin, pas dans la, dans la culture française, c'est un peu trop. Mais bon, dans la vie quotidienne, il faut que je sache des choses sur la France, sur les modes de vie, que je sache comment vivre avec les Français et tout, que je me sens pas isolée parce que quand même, je vais élever mes enfants ici, je vais passer le reste de ma vie ici, j'espère. Et ne pas savoir l'histoire, les modes de vie du pays, ça va compliquer, surtout à élever mes enfants ou moi, à communiquer avec les gens et à être à l'aise avec les gens. Du coup, pour moi, c'est important de m'intégrer. Quand je suis venue, je me suis beaucoup sentie isolée. Je savais pas comment aller vers les gens parce qu'on n'a pas reçu les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes idéologies, peut-être les mêmes. Mais à travers quelques parcours, quelques rencontres, j'ai vu que c'est, il faut juste que je sache m'adapter. Après, on est tous des êtres humains. Et aussi, je pense que de leur côté, ils ont cherché à s'adapter à d'autres cultures qui sont venues dans leur pays. Et j'ai tout simplement dit, il faut que je m'adapte à eux. Je pense qu'il y a certains qui se sont adaptés à moi aussi. Et comme ça, parce que je veux pas donner l'éducation de mon pays à mes enfants, même si je vais donner une partie dans un pays qui est totalement différent. Je veux leur, je sais pas, je pense pas qu'ils vont bien le vivre puisqu'ils sont pas dans mon pays. Du coup, il faut que je sache leur donner l'éducation du pays dans lequel je suis. Parce que c'est vrai qu'avec, il y a eu des circonstances où j'ai quitté mon pays, mais bon, je veux pas leur inculter cette partie de l'histoire. Peut-être que les choses vont changer après et j'aimerais bien qu'ils se sentent fiers d'être d'origine africaine, d'origine de mon pays. Il y a des très très belles cultures. Il y a, par exemple, je leur achète les pains de chez nous pendant les fêtes de chez nous, les fêtes culturelles. Et je fais sentir à la maison qu'il y a une fête, que c'est important et tout. Et pour moi, il faut qu'ils se sentent fiers de mes origines. Je veux pas que leur léguer la négativité de chez moi. Parce que les choses vont changer, je sais que les choses vont changer, l'histoire va changer, ça va pas continuer. Du coup, dans les années à venir, les enfants, eux, j'aimerais bien qu'ils se sentent bien avec leur origine. Alors, actuellement, à Guinée-Conakry, parce que je suis quand même les infos, on a un peu des groupes de filles et tout, et on voit beaucoup de révolutions par rapport à la liberté des femmes. Même s'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas concrètement d'aide quand tu es dans un problème très grave, mais il y a beaucoup trop de révolutions au niveau de la jeunesse. Je sais que nos parents, nos grands-parents vont passer et nous, la jeunesse qui vient, on n'aura pas les mêmes idéologies qu'eux et ça va beaucoup changer. Il y a les jeunes filles qui ont réussi à quitter le pays à travers leur histoire. Je sens aux côtés de beaucoup de personnes qu'ils ont envie aussi de faire quelque chose un jour dans leur pays. Mais moi, personnellement, un jour, si j'ai la chance que je sais qu'il n'y aura pas de punition politique, j'aimerais bien faire quelque chose pour mes petites soeurs qui vont venir, les filles qui vont venir après, et pour leur liberté, que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir de l'aide et tout. Moi, j'aimerais bien apporter mon aide de ce côté-là. Je pense à un projet particulier pour le moment. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ça me toque souvent à la tête. Je me dis, pour le moment, je vais éduquer mes enfants. Quand ils seront un peu grands, je vais me concentrer sur un projet qui sera pour les jeunes filles de chez moi. Je ne sais pas comment je vais le faire ou peut-être un jour que j'aurai la chance de retourner dans mon pays librement. Mais c'est un projet qui me tient à cœur. Et je sais que si j'ai la chance d'en arriver jusque là-bas, ça sera une très, très grande fierté pour moi. Alors concrètement, je pense à un centre, ou construire un centre en Guinée, dans plusieurs villes qui sont isolées, et où les jeunes filles n'ont pas leur mot à dire, et surtout quand elles ont des problèmes, elles ne savent pas vers qui se tourner. Elles n'ont pas, parce que c'est vrai que les gens, en ce moment, il y a la révolution, il y a beaucoup qui en parlent, mais concrètement, quand tu as un problème, tu sais que tu ne peux pas compter financièrement ou politiquement sur quelqu'un. Parce que tout le monde a peur un peu. Et moi, un jour, je voudrais bien que quand une jeune fille a un problème de ce genre que moi j'ai déjà eu, et qu'elle sache qu'il y a un centre qui peut l'héberger, qui peut l'accueillir, qui peut l'écouter, comme ici, quoi. Et qui peut l'aider à se libérer de l'injustice dont elle a été victime.
Thank you.
Alors, c'est un peu compliqué en Guinée, la situation des femmes, parce que nous avons un peu la civilisation, la politique et la culture qui se mélangent. Du coup, c'est un peu difficile de se sortir, parce que ça c'est comme un nœud. Si tu as des problèmes en Guinée en tant que jeune fille, les parents, ils font les choses à l'ancienne. Et le gouvernement dit le contraire, sauf qu'ils ont jamais mis en place d'aide pour les jeunes filles de ces ordres. Et les femmes se révoltent très très souvent. À la fin, les jeunes filles se retrouvent piégées dans une situation où on les force à faire des choses, parce que dans tous les cas, les parents savent qu'il y aura pas de punition après. Du coup, c'est compliqué. En tout cas, je sais que les jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles qui se révoltent. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui, à Conakry, maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, qui font leur combat, qui sont heureusement tombées sur les parents qui ont fait l'école, qui ont compris que les jeunes filles, on est pareil que les hommes en Guinée et tout. Mais ils n'ont pas de pouvoir. Du coup, ils font juste... Les campagnes sur les réseaux, et ces jeunes filles-là, deux fois, elles se retrouvent dans les problèmes parce que on peut les mettre en prison, il n'y a pas d'autre moyen. Quand les parents, ils n'ont pas de relation politique, elles vont y rester. Et bah, c'est comme ça. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de révolutions, mais il n'y a pas d'actes judiciaires en Guinée qui fait que les femmes se sentiraient libres de profiter de leur liberté, d'élever leur voix. Pour le moment, il manque ça. La partie de la politique, du gouvernement qui va s'élever à punir les gens qui vont faire des actes sur des femmes, tout simplement parce que c'est des femmes. Parce que ce qui est marrant en Guinée, des fois, il y a même les membres du gouvernement, ils font des choses atroces. Et parce que il y a une histoire qui s'est passée récemment avec une jeune fille journaliste qui sortait avec un homme politique, entre guillemets, et elle a été victime de cela. Et quand elle est sortie du silence, on l'a tout simplement accusée de diffamation et on l'a mise en prison. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de campagnes autour de ça pour la faire libérer, mais c'est juste des cas comme ça, tu te dis. Un homme qui fait partie du gouvernement qui est censé nous protéger fait ça à une jeune fille et le même gouvernement autorise qu'on la mette en prison. Et vers qui tu vas te tourner pour porter plainte contre un homme? Ils vont tout simplement dire d'aller régler en famille. Surtout, t'as pas d'argent, tes parents ne vont pas trop t'accompagner parce qu'ils ont peur de ce que les voisins vont dire, de ce que la communauté va dire. Peut-être que ma fille, elle a été légère, c'est pourquoi elle a subi cela. Mais je pense qu'en France, c'est différent, parce que c'est vrai que, oui, il y a un peu les mêmes problèmes, mais le taux de la Guinée, le taux est très, très élevé et c'est flagrant. C'est pas, on en parle très, très peu. Au journal, les journalistes, ils ont peur de parler de cela parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Ici, en France, il y a la liberté d'expression. Les gens peuvent parler, chacun peut se faire son avis. Alors qu'en Guinée, ils vont juste accuser la fille qu'elle a été légère. Cette fille, elle a été accusée d'avoir été légère, d'avoir été une jeune fille de la rue, de toutes sortes. Ils ont donné toutes sortes de noms à cette jeune fille. Et le monsieur, il n'a pas du tout, il n'a pas bougé d'un poil. Il n'a pas été accusé de quoi que ce soit. Il a juste fait son travail d'homme. Et ça, c'est très énervant. Il a été un homme, quoi. Un bon homme. Ah, ça me met très en colère. Ces histoires comme ça, des fois, j'évite parce que ça me gâche le moral dans la vie quotidienne. Et quand je vois ça, ça me rappelle des souvenirs que j'ai envie d'oublier. Alors, la révolution des femmes, c'est des gouttes de trop, parce que je pense qu'elles subissent trop. C'est pas des femmes qui se lèvent d'un jour comme ça. On m'a fait ça aujourd'hui, je veux me lever. C'est qu'elles ont été, elles ont beaucoup subi, beaucoup, beaucoup subi. Et elles se disent, j'ai plus rien à perdre, même côté familial, parce que ça crée de la rancœur envers ta propre famille. Tu te sens seule, tu te sens pas accompagnée par ta propre famille. Tu te dis, bon, quand ma famille s'inquiète pour sa dignité, pour ce que les gens vont dire, moi, je n'ai plus rien à perdre. Cette dignité, déjà, tu sens que tu l'as perdue depuis longtemps au fond de toi. Du coup, la révolution commence là-bas. Et elles ont, avec de l'expérience, elles n'ont pas d'accompagnement, elles ne savent pas comment faire. Pour moi, enfin, avec tout ce qui s'est passé, tout, c'est comme si tu jetais dans la bouche du loup, quoi, parce que en Guinée, tu te lèves pour dénoncer quelqu'un. Si la personne a des influences et tout, c'est, en fait, entre guillemets, ta vie, elle est foutue. Enfin, c'était foutu avant, parce que la personne, tout ce qu'elle t'a fait intérieurement, tu n'es plus toi-même, tu sens plus rien. Mais tu vas perdre ta liberté aussi, d'avoir eu cette courage de dénoncer la personne. Ta liberté, tu vas la perdre aussi. Du coup, c'est des femmes qui ont beaucoup subi. Et quand elles ne peuvent plus, quand elles n'ont plus rien à perdre, un jour, elles s'élèvent. Bon, j'en peux plus, soit je meurs, soit je fais ça, mais j'en peux plus. Et la plupart du temps, c'est comme ça, beaucoup de femmes dénoncent les abus dont elles ont été victimes. Et c'est dommage parce que ça se retourne toujours contre elle encore. Dans le groupe d'amis qu'on a, quand je vois des choses que j'entends dans les familles encore, des fois je parle avec ma petite sœur et ce qui me met en colère, c'est que je sens qu'elle va subir des choses, qu'elle n'est pas prête, on n'est jamais prête de les subir. Mais je sens qu'elle va subir des choses dont je suis passée et ça me pèse. Parce que j'aimerais l'aider, j'aimerais lui venir en aide. Je le fais en cachette, des fois je l'aide comme je peux et tout. Mais je sais que c'est une jeune fille comme moi. Peut-être que moi, l'aide que j'ai eue, la chance que j'ai eue, je n'ai pas été courageuse comme les filles qui sont restées en Guinée. Il faut se le dire, j'ai évité les tortures dont elle subit. Et je me dis, si je ne trouve pas un moyen de la faire quitter peut-être la Guinée, parce que dans ce pays, je ne sais pas qui pourrait l'aider. Je ne sais pas du tout qui pourrait l'aider. Je lui viens en aide en cachette avec quelques aides financières que je trouve et tout. Mais je sais que c'est quelque chose de temporaire. Le jour où ça va vraiment s'abattre sur elle, ça va être dur si elle reste là-bas. Et ça me met en colère, je ne comprends pas. Je me dis, j'ai quand même quitté le pays pour me protéger et tout. Et c'est comme si j'ai été un peu égoïste parce que je sais que je ne suis pas la seule à subir des choses et je ne suis pas la seule qui va subir. Je sais qu'il y a mes jeunes sœurs qui vont subir parce que moi, je viens d'une famille très, très... qui sont très, très attachées à leur culture et ils ne vivent pas en ville. En ville, on peut dire qu'il y a un peu de révolution sur les réseaux sociaux, mais au village, c'est encore plus compliqué. On est entouré, on est bouffé par la famille tout autour. Et ma sœur se retrouve là-bas. Je suis incapable de l'aider. Ça me met en colère et... J'ai rencontré beaucoup de personnes bien, mais j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont un peu reproché d'avoir quitté mon pays. Ils me disent pourquoi tu retournes pas dans ton pays et tout. Et ces personnes-là, j'aimerais bien qu'ils sachent que j'aimerais bien rester dans mon pays parce que c'est là-bas où je me sens chez moi, c'est là-bas où je suis bien, c'est là-bas où j'ai grandi. Mais c'est que c'est les circonstances de la vie qui ont fait que j'ai quitté ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, où j'ai tous mes attaches. J'aimerais bien élever ma famille là-bas, mes enfants et tout. Mais sauf que j'ai peur. C'est vrai que je l'assume, j'ai très très peur d'y aller. C'est pourquoi je suis dans d'autres pays. pour me sentir en sécurité. J'avais pas ma famille, mais quand je suis venue, j'avais mon grand frère qui est aussi parti très très longtemps, qui m'a déjà aidée. C'est pourquoi j'ai dit que la chance que j'ai eue. Il est décédé. Après, il m'a rejoint. Il est décédé 4 mois après. Et après, j'ai rencontré mon conjoint parce que c'était un copain à mon grand frère. On est restés ensemble pendant tout le temps que mon frère était malade, parce que quand il était rentré, il était très très malade. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon conjoint. Oui, avec qui on a eu 2 enfants déjà et j'attends le troisième. Et je suis très très contente parce que moi, c'est important pour moi d'avoir ma famille ici, d'avoir des entourages qui sont très très proches. Et j'en suis très très fière. Alors la maison des femmes, parce que quand je suis venue à Bordeaux ici, j'étais en foyer. À ce moment, je faisais ma demande d'asile et tout, mais j'étais un peu perdue parce que c'est vrai que au foyer, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'enfants, et il y avait des assistantes sociales qui n'étaient pas. Enfin, ils faisaient de leur mieux parce que c'est pas facile d'accompagner tout un foyer. Et je regardais, je me suis sentie perdue. Après, c'est normal, les assistants sociaux, ils vont pas être là. Ils sont là à t'accompagner dans ta demande d'asile, mais dans ce qui se passe dans ta tête, dans ta vie privée, c'est pas leur travail. Alors, il y a une amie qui m'a parlé de la maison des femmes de Bordeaux. Je suis allée sur leur site pour savoir un peu. Parce qu'elle était déjà venue ici, elle a rencontré Isabelle. Et je suis allée sur leur site pour voir et tout. Et après, j'ai appelé le numéro qui s'affichait et je leur ai dit, est-ce que je peux avoir un rendez-vous et tout? J'aimerais bien être accompagnée par vous. Après, je savais vaguement c'est l'accompagnement. Bon, je prenais tout ce qui venait dans l'accompagnement. Je ne savais pas réellement dans quel accompagnement elle se trouvait, parce que en ce moment-là, j'étais très très inquiète pour ma demande d'asile. Je me dis, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Qu'est-ce que je veux faire si ça marche pas? J'étais inquiète. Du coup, après, ils m'ont donné rendez-vous et Isabelle m'a reçue. Et franchement, la maison des femmes, c'est un endroit que je viens quand ça va ou quand ça va pas. Et je viens dans tous mes états, parce que je sais que je serai reçue dans tous mes états. Quand ça va pas, j'ai de l'écoute ici. Quand ça va, on vient pour des ateliers, des conseils ou toutes sortes d'ateliers, même des fois de la beauté, comment prendre soin de soi. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, des fois, on s'y perd, on ne sait plus, on s'en fout de notre identité, de ce qu'on renvoie aux gens, de la beauté même. Et à la maison des femmes, on peut trouver tout ça, que ce soit dans l'accompagnement psychologique. Si tu veux raconter ton histoire, tu le racontes. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Parce que moi, quand je suis venue, Isabelle, elle ne m'a pas demandé mon histoire, elle m'a... Je ne sais même pas si je l'ai une fois raconté tout ce que j'ai vécu. Mais vaguement, je lui ai dit, je faisais ma demande d'asile. Du coup, elle m'a beaucoup orientée vers d'autres personnes. Elle m'a beaucoup vers certaines assistantes sociales, vers d'autres centres de demande d'asile qui pouvaient me conseiller sur ma demande d'asile. Mais on n'en a jamais discuté de... Parce que ça me perturbait beaucoup aussi, mon histoire, de le raconter. À chaque fois que je passais dans des associations, je me sentais vulnérable qu'ils sachent tout ce que j'ai vécu, mes peines et tout. Et ça me mettait mal à l'aise face à eux. Du coup, j'y allais plus. Parce que c'est des choses que je veux pas crier haut et fort. sur la route, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Mais quand je suis allée, elle m'a pas demandé mon histoire, elle m'a juste accueillie, elle m'a dit, bah, ici, nous, on accompagne les femmes. Si tu as été victime de quoi que ce soit dans ton pays ou en France, tu viens ici, on va t'écouter, on va t'orienter. Tu peux rester, tu peux prendre le thé. Des fois, on fait des sorties en famille ou entre filles et tout. Et ça m'a bien rassurée, ça m'a mis en confiance. Et à chaque fois qu'il y avait des ateliers, je venais parce que ça m'a permis aussi de rencontrer plein d'autres femmes et tout. Et des fois, quand je m'assois, quand je leur écoute et tout, sans expliquer mon histoire, parce que moi, je déteste expliquer mon histoire. Des fois, je m'assois, c'est égoïste, mais je m'assois pour juste écouter ce qu'elles ont à dire. Je sais pas pourquoi, mais des fois, ça me réconforte. Je me dis, j'oublie pas quand même que je suis pas la seule à vivre ça. Je veux pas m'apitoyer sur mon sort en disant que je suis la seule femme au monde à vivre ça. C'est vrai que personne n'aimerait vivre ça, mais je sais à travers ces femmes-là. Et quand je vois leur force, je me dis, mais pourquoi tu peux pas faire comme eux? Profite de la vie, tu es là maintenant et si tout se passe bien, apprends à profiter, apprends à être heureux avec tout ce que tu as vécu et tout. Et ça m'a beaucoup aidé, c'est là. On trouve la force collectivement et des fois on en rigole, c'est ce qui est fou. Des fois quand il y a des histoires, on en rigole et je sais pas, mais ça t'apaise. Ça t'apaise quand tu sais pas que des pleurs. Quand tu dis ton histoire, quand quelqu'un raconte son histoire et qu'il y a des parties marins et on éclate de rire et bon, on passe dessus quoi. Pour juste parce que le fait de pleurer tout le temps, c'est vrai que ça fait du bien. Mais des fois aussi, quand le temps passe, il faut savoir accepter son histoire et en rigoler un peu. Ça peut être apaisant aussi. Et avec les autres femmes, quand je vois tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont fait pour s'en sortir, ça me donne de la force et je me sens moins coupable quand je leur écoute expliquer leur histoire. Alors moi, je suis beaucoup nature. Un jour, j'aimerais bien, je sais pas, me retrouver dans ma ferme, faire de l'agriculture, je sais pas, être en plein air. C'est vrai que j'ai grandi dans cette atmosphère-là et ça me manque beaucoup. Beaucoup la nature, les champs. Parce que ma mère, elle faisait de l'agriculture, elle cultivait les légumes et c'est quelque chose que j'adore. À la maison, j'essaie de faire pareil, mais apparemment, je n'ai pas trop la main verte. Mais bon, je ne sais pas comment je vais y arriver. Peut-être qu'il faudrait une formation pour avoir la main verte, je ne sais pas. Mais un jour, j'aimerais bien vivre comme ça, chez moi, avec les animaux, avec mes légumes. Et pourquoi pas en faire, parce que ça me vient souvent, je dis pourquoi pas en faire une activité mon travail, quoi. Et des fois, quand je m'assois et j'explique mon projet à mon conjoint, je lui dis, un jour, je vais ouvrir un centre, je vais acheter un grand terrain quelque part en Guinée, je vais ouvrir un centre pour les jeunes filles et je vais faire un grand, grand champ pour qui ça intéresserait de faire de l'agriculture, de faire des formations. J'ai dit comme ça, je vais importer, je vais faire la culture du riz, des légumes et tout, je vais importer à la ville pour vendre. Ça pourrait financer le centre et tout. J'ai dit, les jeunes filles, elles vont apprendre. Je vais faire des ateliers là-bas et tout. Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais bon, à voir avec le temps. Ça ne fait pas du mal de rêver. J'aimerais juste remercier la Maison des Femmes d'avoir existé, qu'ils soient là. J'espère qu'ils seront là pour toujours. Parce que c'est important pour nous les femmes d'ici enfin les femmes d'ailleurs et les femmes d'ici de savoir qu'elles ont ici qu'elles ont ici, qu'elles ont un endroit où elles peuvent écouter sans être jugées. C'est réconfortant dans la tête, on est tranquille. Moi, ça me fait du bien au quotidien et tout, parce que quand t'as pas ta famille, même quand t'as ta famille, il peut y avoir des histoires de famille et tout. Quand t'as pas ta famille, c'est encore un peu compliqué. Des fois, t'as du mal à aller voir les amis et leur dire j'ai ça, mais tu sais que t'auras la maison des femmes, je sais que je serai là librement. Je peux revenir, avoir des problèmes dans la vie, avoir des situations encore compliquées. Je sais que ça peut arriver dans la vie. Et je sais que si ça arrive, j'ai un endroit où je ne serai pas jugée, où je ne serai pas pointée du doigt si je viens. I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
I wish you joy and happiness.